Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Les 20h ici à Paris, 21h à Beyrouth.
Martin Guèze.
Au Proche-Orient, va-t-on vers un cessez-le-feu entre Israël et le Liban? Une réunion du Conseil israélien de sécurité doit se tenir demain soir. Un arrêt des combats vivement souhaité et encouragé par la France et les États-Unis. Un cessez-le-feu qui pourrait être progressif, nous dira Michel Paul depuis Jérusalem. Aux États-Unis, la transition entre Joe Biden et Donald Trump se fait un peu moins en douceur qu'annoncée. En cause, l'opacité autour des donateurs de l'administration Trump. Aux Philippines, guerre fratricide entre les deux familles les plus puissantes du pays. Autrefois alliés, les Duterte et les Marcos se déchirent aujourd'hui, nous dira Nicolas Rocca. Enfin, le nombre de déchets toxiques, de déchets plastiques surtout, pourrait exploser dans les années à venir. Des déchets toxiques pour les océans comme pour la santé humaine. Nous irons dans une épicerie qui a totalement éradiqué les emballages plastiques à Paris. Vive le vrac en fin de journal. Au Proche-Orient, vers un arrêt des combats au Liban, le cabinet de sécurité israélien se prononcera demain soir sur un accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'indique un responsable israélien ce lundi à l'agence France-Presse, confirmant les déclarations de Danny Dannon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, qui avait expliqué quelques heures plus tôt à New York qu'une telle réunion aurait lieu ce lundi ou ce mardi. Avancée significative, donc après 60 jours de guerre, un cessez-le-feu toutefois progressif. Correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
Un accord en trois phases, la première, un arrêt des combats et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Finalement, plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les deux pays. Au cours des dernières heures, des solutions ont, semble-t-il, été trouvées aux deux points de litige qui bloquaient la négociation. La revendication israélienne de pouvoir intervenir militairement au Liban en cas de violation de l'accord, et l'autre problème lié celui-là au rôle de la France dans le cadre du comité de surveillance de l'accord. Israël demandait à minimiser ce rôle en raison de la position de la France sur les questions d'armement et aussi à la suite de l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Galan par la Cour de La Haye. Et en attendant, sur le terrain, les deux parties tentent d'améliorer leur position avant la mise en place d'un cessez-le-feu, notamment avec des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et aussi des tirs de roquettes sur Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et ce soir, Paris et Washington disent espérer un accord dans les 36 heures à venir. Le Liban, la FINUL, la force de l'ONU dans le pays, continue de tirer la sonnette d'alarme et exprime sa profonde inquiétude après des attaques israéliennes contre l'armée libanaise. Attaques qui ont fait 45 morts depuis le début des violences. L'un des soldats tués a été tué en tout cas hier soir, et 18 autres ont été blessés lors d'une attaque dans le sud du pays. L'armée israélienne qui dit regretter et qui assure ne viser uniquement que le Hezbollah. Aux États-Unis, bonne nouvelle pour Donald Trump, le procureur spécial qui recommande l'arrêt des poursuites fédérales contre le futur chef d'État pour ingérence électorale en 2020. C'est que l'équipe de Trump a salué comme une victoire majeure. Le 47e président américain de l'histoire, qui a par ailleurs pu nommer la plupart des membres de sa future administration. Des nominations désormais à confirmer par le Sénat. Ses futurs membres doivent aussi recruter leurs collaborateurs. Des procédures qui se font dans un certain flou, notamment en ce qui concerne leur financement. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Lorsqu'ils s'étaient vus à la Maison-Blanche, Joe Biden et Donald Trump s'étaient engagés à une transition aussi douce que possible. Ça, c'était devant les caméras, et cela avait duré 29 secondes. En coulisses, c'est apparemment un peu plus compliqué. L'équipe Trump n'a toujours pas signé le protocole d'accord prévu par la loi. L'équipe arrivante peut normalement bénéficier de financements fédéraux jusqu'à un peu plus de 7 millions de dollars pour rembourser ses frais de préparation et les recrutements de collaborateurs. Cela implique aussi que la nouvelle équipe dévoile combien elle dépense et surtout qui finance ses efforts. En clair, qui sont les donateurs derrière la constitution de l'administration au sens large. Et jusqu'ici, c'est le silence radio sur la somme globale engagée ou sur qui paye quoi et combien. Une opacité qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations sur d'éventuels conflits d'intérêts de la part de particuliers ou de secteurs économiques qui placeraient leurs hommes au cœur de l'administration. Contrairement aux campagnes électorales, il est également possible pour des étrangers de contribuer au financement de la transition et dans le cas présent sans que leur nom soit divulgué. En 2020, lors de l'arrivée de Joe Biden, et en 2016, à la constitution de la première administration Trump, les protocoles d'accord avaient été signés malgré les tensions entre les camps rivaux. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
RFI minuit 4 à Islamabad, au Pakistan. La trêve entre les musulmans sunnites et chiites dans le nord-ouest du pays n'a pas été respectée. Les affrontements ont repris ce lundi, des violences qui ont fait 82 morts depuis jeudi dernier. Direction les Philippines, à présent, où les deux familles les plus puissantes, du pays se déchirent, à savoir les Duterte et les Marcos. Sara Duterte, vice-présidente du pays et fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, qui est soupçonnée par le ministère de la Justice d'avoir fomenté un complot contre l'actuel chef de l'État, Ferdinand Marcos Jr. Autrefois alliés, les Duterte et les Marcos se livrent aujourd'hui une guerre ouverte, Nicolas Roca.
Tous les coups sont désormais permis entre les Marcos et les Duterte. L'alliance de circonstances a éclaté depuis plusieurs mois alors que les deux camps espèrent remporter l'élection présidentielle de 2028. Mais ce samedi, Sara Duterte est montée d'un cran dans l'agressivité.
J'ai déjà parlé à un membre de ma sécurité. Je lui ai dit que si je me faisais tuer, il faudrait les tuer. Tuer le président Marcos, la première dame Lisa Araneta et le président du Parlement Martin Romualdez. Ce n'est pas une blague. J'ai déjà tout arrangé, tout prévu. Et je lui ai dit de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit tué.
Une menace de mort prise au sérieux par le camp présidentiel. Sara Duterte, déjà visée par une procédure en destitution au Parlement pour une autre affaire, a maintenant 5 jours pour venir s'expliquer devant le ministère de la Justice et une chasse à l'homme a été lancée pour attraper l'assassin. Le président Ferdinand Marcos Jr. a pris la parole ce lundi.
Les déclarations de ces derniers jours sont inquiétantes. Il y a eu des insultes et des plans pour nous assassiner. Nous ne devons pas laisser faire ce complot criminel. Je vais me battre. En tant que pays démocratique, nous devons faire respecter l'état de droit.
La lutte intestine entre le président et sa vice-présidente risque de s'intensifier avant les élections de mi-mandat prévues en mai prochain.
Nicolas Roca du service international de RFI. L'actualité en Europe à présent et en Roumanie d'abord, où le Premier ministre Marcel Ciolacu a accepté sa défaite. Favori des sondages, il n'est arrivé qu'en 3e position lors du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce dimanche. Marcel Ciolacu a échoué à quelques centaines de voix de la centriste Elena Lasconi. 19,15% des voix contre 19,17%. C'est le candidat pro-russe Kalin Georgescu qui est arrivé en tête. Le deuxième tour qui aura lieu le 8 décembre prochain. Et puis en France, Marine Le Pen menace la présidente du Rassemblement National à l'Assemblée, a affirmé qu'elle et son groupe pourraient bien censurer le gouvernement actuel. Et ce, après son entretien avec le Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier est resté campé sur ses positions, a affirmé Marine Le Pen, confirmant la volonté de son parti de voter la censure si le budget restait en l'état. Des propos jugés totalement irresponsables par Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui sera reçu par son successeur demain, et le chef de file des députés macronistes qui est monté au créneau face à Marine Le Pen.
La position qui est tenue par Madame Le Pen est totalement irresponsable. On ne joue pas à pile ou face avec l'avenir du pays. Michel Barnier, il n'a pas besoin qu'on le censure, il a besoin qu'on l'aide à réussir. Ça veut dire évidemment être exigeant, et je le redis ici, augmenter le coût du travail pour la première fois depuis 30 ans, comme c'est prévu dans ce budget, me semble être dangereux. Et il y a d'autres chemins qui existent. On a fait des propositions avec les députés EPR. Mais franchement, dans le contexte que nous connaissons, tenir une position aussi irresponsable que celle que tient Madame Le Pen, jouer quelque part à pile ou face avec l'avenir du pays, sembler ne même pas se préoccuper des conséquences de ce type de choix, je pense que ce n'est pas à la hauteur des responsabilités.
Des propos recueillis par Raphaël Delvolvé. Enfin, le plastique. Ce n'est pas si fantastique. Les pollutions plastiques qui mettent en danger les océans et la santé humaine, c'est dans ce cadre que s'ouvre aujourd'hui en Corée du Sud un sommet de négociation pour réduire les déchets plastiques. Car en l'état, leur augmentation est colossale. Les déchets plastiques pourraient atteindre les 600 millions de tonnes par an. Et en parallèle des efforts faits par les différents états, les fameux petits gestes comptent aussi. Notre reporter Raphaël Morand s'est rendu dans une épicerie parisienne, une enseigne un peu particulière qui a entièrement banni les emballages plastiques.
Sans attendre l'année 2030, lorsqu'il sera interdit d'emballer fruits et légumes dans du plastique dans l'Union européenne, cette chaîne d'épicerie française propose 100% de produits vendus en vrac. Ici, les céréales, légumes secs et produits d'entretien sont disposés dans des grands bacs.
Voilà la moitié.
On a mesuré qu'on réduisait la masse d'emballage mise sur le marché de plus de 70%.
Didier Onretta, président des magasins Day by Day, une enseigne française créée il y a 11 ans.
On va encourager les gens à revenir avec leurs propres contenants au maximum, évidemment, dans la mesure où ces contenants sont réglementaires. Il ne faut pas prendre de risques sanitaires pour personne. Mais s'ils n'ont pas de contenant, nous, on a tout un tas de contenants réemployables mis gratuitement à disposition.
Cette chaîne compte une quarantaine de magasins, dont certains ont souffert avec la pandémie. Mais la clientèle sensible au gaspillage et à la pollution est de retour, Didier Onretta.
Seulement 26% des emballages ménagers plastiques sont recyclés. 40% vont être brûlés. À une époque où on parle d'émissions CO2, c'est dramatique. Et puis les 30 et quelques pourcents qui restent de cet écart-là, ils vont être enfouis.
Avec la réutilisation des emballages, le vrac fait partie des solutions recommandées par l'ONU pour réduire nos déchets plastiques.
Alors, partage en vrac de Raphaël Morand, c'est la fin du journal. Bonne soirée, écoutez RFI.